Les cours du Collège de France, Marc Hainaut, chaire chant, cordes et gravité.
Bonjour à tous et bienvenue à cette première leçon de mon cours de l'année scolaire 2025-2026 qui sera donc consacrée aux limites non relativistes de la théorie d'Einstein et leurs applications. Alors, avant même de commencer, je voudrais dire que la terminologie non-relativiste est en fait un peu malheureuse parce qu'elle prête à confusion. Pourquoi elle prête à confusion ? Parce que les théories obtenues à la limite sont relativistes, mais il se fait que le groupe de relativité est différent. Mais néanmoins, il y a une relativité correspondante. Donc c'est une terminologie qui, pour cette raison, est un peu prêtée à confusion. Mais elle a été consacrée par l'usage et donc je l'utiliserai aussi. La terminologie non-lorentzienne est sans doute plus correcte, mais définir des choses par ce qu'elles ne sont pas n'est pas une bonne manière de procéder. Donc c'est une terminologie qui existe aussi, que j'utiliserai aussi, mais qui n'est pas la meilleure. Et en fait, je ne connais pas réellement de terminologie optimum dans ce cas-là. Je vais utiliser donc celles qui sont consacrées par l'usage. Bon, ceci étant dit, je peux commencer, disons, l'introduction. Enfin, retenez que non-relativiste, ça ne veut pas dire que ce n'est pas relativiste, parce qu'il y a un groupe de relativité, simplement ce groupe de relativité, ce n'est pas le groupe de la relativité restreinte, et le groupe de Poincaré ou Lorentz. Bien. Alors, une brève introduction. Donc, de quelle limite parle-t-on ? Donc, on considère la théorie d'Einstein et on prend la limite où la vitesse de la lumière, c'est tend vers zéro ou tend vers l'infini. Alors, évidemment, comme c est une quantité qui a des dimensions, c'est un peu subtil de préciser, de dire. Il faut être plus précis dans ce qu'on entend par ces limites, parce qu'en fait, vous savez bien qu'en changeant les unités, on peut toujours faire C égal à 1. Donc il y a réellement trois valeurs possibles de C. 1, quand c'est différent de 0 et de l'infini. 0, quand c'est 0. On peut changer les unités comme on veut, ça reste 0. Ou l'infini, à nouveau, on ne peut pas changer par changement d'unité. Donc il y a trois valeurs. Donc parler de limite, c'est un peu subtil. Tout ça est subtil parce que C a des dimensions. Donc il faut être plus précis. Et donc évidemment, ce qu'on entend par prendre la limite où C tend vers l'infini ou vers zéro, ça veut dire que, par exemple, C tendant vers l'infini, qui est la limite probablement la plus familière pour vous, ça veut dire qu'on suppose que toutes les vitesses relevantes physiquement pour le problème que l'on étudie sont petites vis-à-vis de la vitesse de la lumière. Et donc, en première approximation, on peut supposer que la vitesse de la lumière, c'est l'infini. L'autre cas paraît un peu plus curieux, parce qu'on peut se dire, mais on peut jamais. Donc la vitesse de la lumière petite, mais en principe, on ne peut jamais dépasser la vitesse de la lumière. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que les quantités qui ont des dimensions d'une vitesse, comme par exemple les dérivées temporelles d'un champ par rapport à ses dérivées spatiales, donc on peut imaginer un champ qui varie très vite tout en étant lentement variable spatialement. Donc si cette propriété est satisfaite, que les dérivées temporelles de ce champ dominent les dérivées spatiales, on peut en première approximation supposer que les dérivées spatiales sont nulles, c'est-à-dire effectivement faire C égale à zéro dans la théorie correspondante. Évidemment, il n'y a pas de propagation qui est associée à ces vitesses plus grandes que C, mais néanmoins, il y a des quantités qui ont des dimensions d'une vitesse qui sont très grandes par rapport à C. Alors, c'est une limite qui est apparu un peu farfelu la première fois que les gens en ont parlé, mais il s'est avéré récemment, et c'est pour ça que j'en parle dans ce cours, que ces limites non relativistes de la théorie d'Einstein ont énormément d'applications physiques, et on s'en est rendu compte relativement récemment, et donc c'est un domaine de recherche extrêmement intense actuellement, donc aussi bien pour les applications de la limite C tendant vers l'infini, c'est la limite newtonienne. Elles sont probablement largement appréciées, certaines d'entre elles en tout cas, par vous tous. C tendant vers zéro est aussi une limite extrêmement intéressante qui sous-tend, pense-t-on, l'holographie plate, donc pour comprendre la gravité quantique dans le contexte asymptotiquement plat. pour comprendre les horizons, qui sont aussi décrits par des surfaces nulles. Donc il y a des tas d'applications, même en physique de la matière condensée, de ces limites. En plus de ces applications, il y a également des aspects géométriques et des aspects algébriques extrêmement riches et intéressants, qu'il est intéressant de comprendre parce que ça permet de mieux aborder les applications. Et en fait, la manière dont mon cours va être structuré est la suivante. Je vais au cours essentiellement développer les aspects plus formels, les aspects algébriques, les aspects géométriques, et les applications seront abordées dans les séminaires qui vous mettront en contact avec les recherches les plus modernes, les plus récentes dans le domaine. Donc moi, ce sera un cours relativement systématique où je vais mettre les bases pour comprendre ces applications. Les applications elles-mêmes seront couvertes dans les séminaires. Et donc, comme l'année passée, il y a un cours d'une heure et demie qui est suivi d'un séminaire d'une heure et demie donné en anglais par un des experts du domaine. Bien. Alors, qu'est-ce que je veux encore dire en guise d'introduction? Oui. Une autre remarque, si vous regardez l'action d'Einstein, et j'écris les constantes. Alors, il y a des C qui se cachent ici, mais je ne les ai pas écrits explicitement. Mais vous voyez que le coefficient devant l'action d'Einstein, ou de Hilbert Einstein, c'est C divisé par G. Bon, évidemment, il y a des C, il peut y avoir des choses qui se cachent là, mais tout ça fait partie de la définition précise de la limite. Mais en tout cas, de manière un peu superficielle, vous voyez que C et G apparaissent ensemble. Et donc, faire tendre C vers 0, c'est la même chose que faire tendre formellement G vers l'infini. Et on parle parfois, pour cette raison, dans certains contextes, concernant la limite C tendant vers 0, comme étant également la limite de couplage fort de la gravitation. Mais comme je l'ai dit, c'est un peu imprécis parce qu'il y a des facteurs qui se cachent ici. Bon, mais donc, si vous voyez cette terminologie-là, elle est motivée par ce que je viens d'expliquer. Voilà, donc ça c'était en guise d'introduction. Vous verrez pourquoi au fur et à mesure qu'on développe le cours, c'est effectivement des limites extrêmement intéressantes, non seulement sur le plan mathématique, mais également sur le plan des applications, par les séminaires. Ce que je voudrais dire aussi, c'est puisque je donne un cours au tableau avec un développement, disons, qui permet de poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions pendant le cours. Je ne suis pas du tout vexé si vous m'interrompez, au contraire, il vaut mieux poser les questions quand elles se présentent plutôt que d'attendre à la fin où on risque d'avoir oublié quelle était la question. Ceci étant dit, je vais donc commencer aujourd'hui par parler des aspects algébriques de ces limites, c'est-à-dire vous parler des groupes de symétrie, de relativité qui sous-tendent ces limites. Donc on sait que la relativité restreinte est associée au groupe de Poincaré, au groupe de Lorentz, donc le groupe de Lorentz homogène et puis à la partie inhomogène, ça forme le groupe de Poincaré. Les limites dont je vais parler ont également un groupe de relativité, mais ce groupe de relativité est différent. Et je vais étudier, décrire dans cette première leçon, les groupes de relativité possibles, si vous voulez. Et puis on verra les théories qui réalisent ces groupes. Alors, plutôt que de parler des groupes, je vais parler des algèbres de Lie, c'est plus facile, correspondantes. Donc on va parler des algèbres de Lie. Et les algèbres de Lie qui peuvent être des algèbres de Lie relativistes, on leur a donné un nom. C'est ce qu'on appelle les algèbres de Lie cinématiques. Alors je vais donner la définition de ces algèbres de Lie cinématiques en motivant la définition, et puis je vais vous montrer comment les déterminer toutes. Et on trouvera en particulier l'algèbre de Poincaré, mais aussi les algèbres qui sous-tendent ces limites. Alors, ceci me fait penser... En fait, la leçon d'aujourd'hui va être largement basée sur un article qui a été un article pionnier dans le domaine, qui a un peu marqué le début de cette histoire, qui est un article de Bakri et Lévy-Leblond des années 60. Donc c'est vraiment un article classique de ce point de vue-là. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de choses dernier cri. Les applications au séminaire, oui, bien sûr, mais dans la partie ici, c'est quelque chose, c'est un travail assez classique de Bacri et Lévy-Leblond, et ça me permet de vous dire que j'ai préparé ici une liste de références pour les personnes intéressées, donc vous pouvez vous servir. S'il n'y en a pas assez, j'en réimprimerai de toute façon pour la semaine prochaine, et la semaine prochaine, il y aura aussi des séances pour les leçons suivantes. Bon, ici, il y a la leçon 1 et la leçon 2, mais il manque encore les autres leçons, donc n'hésitez pas à vous servir et à me dire s'il en manque. Voilà. Alors, pour introduire la notion d'algèbre de Lie cinématique, je vais peut-être commencer par rappeler ce qu'est l'algèbre de Poincaré et la structure de l'algèbre de Poincaré. Et à partir de là, on va généraliser. Donc l'algèbre de Poincaré est un exemple d'algèbre cinématique. On va, à partir de Poincaré, introduire la notion générale. Alors, l'algèbre de Poincaré, je vais peut-être écrire ça ici, c'est une algèbre qui a 10 générateurs. Il y a l'énergie, je vais prendre les notations de Bacri et Lévy-Leblond que j'appelle H. Il y a l'impulsion que j'appelle P. Et puis il y a le moment cinétique. Alors, en dimension D, c'est un tenseur antisymétrique, MIJ. Mais je vais travailler pour fixer les idées, même si on peut faire ça, on peut faire la même analyse en n'importe quel nombre de dimensions. Je vais travailler à 3 plus 1 dimension, à 4 dimensions d'espace-temps. Et donc, je vais travailler avec le vecteur J, qui est obtenu avec à partir de MIJ de la manière suivante, hein, par dualité, et donc c'est un vecteur J. Et puis, il y a les transformations de Lorentz propres, qu'on appelle aussi boost, ou transformation inertielle. Bon, je vais les appeler boost parce que transformation de Lorentz propre, comme on va quitter le cadre de Lorentz, ce n'est pas une bonne terminologie. Donc il y a les boosts et je vais utiliser la notation qui sont aussi caractérisées par un vecteur. Hein, donc les composantes, c'est M0i en termes de générateur de Lorentz si on utilise la notation M lambda mu pour les générateurs de Lorentz. Donc les indices latins prennent les valeurs d'espace 1, 2, 3. Les indices grecs, mais je ne vais peut-être pas beaucoup utiliser les indices grecs dans cette leçon-ci aujourd'hui, prennent les valeurs 0, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, c'est l'espace, 0, c'est le temps. Donc on a combien de générateurs ? 1 plus 3 plus 3 plus 3, c'est-à-dire 10 générateurs. Donc il y a 10 générateurs du groupe de Poincaré. Et quelles sont les relations de commutation de ces générateurs ? Alors je vais les diviser en deux groupes. Un groupe qui va toujours être le même pour toutes les algèbres cinématiques, et puis un groupe qui, lui, varie selon ces algèbres. Le groupe qui est toujours le même, c'est celui qui fait intervenir J. Donc J, c'est les rotations spatiales. Donc, dans le groupe de Poincaré, dans le groupe de Lorentz, il y a un sous-groupe qui est le sous-groupe des rotations spatiales. Et là, pour les rotations spatiales, l'énergie est un scalaire, P est un vecteur, J, c'est un vecteur, et K, c'est un vecteur. Donc là, il y a des relations de commutation qui expriment ça et qui sont les suivantes. JH égale à 0. Donc ça, j'ai la notation vectorielle, donc ça veut dire que H commute avec les trois composantes de J. Hein, il y a trois composantes. Alors, J, c'est le générateur du groupe des rotations. J'aurais peut-être dû commencer par cela. Donc JI, JJ, ça vous redonne du J. Donc je vais utiliser la notation que je vais expliquer tout de suite de Bacri et Lévy-Leblond. Donc quand j'ai une relation où il y a deux vecteurs ici qui font intervenir un vecteur, ceci veut dire, c'est un raccourci pour écrire la relation suivante. Donc ça veut dire ça, et ça c'est bien l'algèbre du groupe SO3, donc des rotations spatiales, pour lequel JEP est un vecteur. Donc P se transforme comme un vecteur sur J, donc ça implique que la relation de commutation, c'est la suivante. et K est un vecteur aussi. Donc à nouveau, ceci veut dire, je l'écris encore une fois, Ji Pj est égal à epsilon Ijk Pk. Donc ça c'est la même chose. C'est juste, c'est plus rapide à écrire. Donc en fait, c'est la relation de commutation qui font intervenir les générateurs de SO3. Donc ça me dit l'algèbre de SO3. Et puis ceci me dit comment les autres générateurs se transforment sous SO3. Alors, à côté de ces relations de commutation, pour le groupe de Poincaré, il y a évidemment toutes les autres relations de commutation qu'il faut écrire. Alors, H et P commutent. Mais il y a des choses qui... P et P commutent, oui, donc ça c'est le groupe des translations d'espace-temps qui est abélien. Mais les choses intéressantes, c'est quand ça fait intervenir K. Donc si vous prenez le commutateur de 2 boosts, ben vous allez obtenir une rotation spatiale. Donc si vous faites les calculs proprement, vous avez moins J. H avec K, ben vous savez que pour les boosts, l'énergie et l'impulsion forment un quadrivecteur, donc ça va me donner du P. Et puis P avec K, ben à nouveau P se transforme en l'énergie quand je fais une boost. Donc on écrit ça comme... Alors je vais expliquer les notations. Donc à nouveau, ceci ça veut dire quoi? Ça veut dire H, K, I. C'est juste qu'on n'a pas envie d'écrire les... Alors là c'est PI, donc ça c'est assez immédiat ce qu'on entend par là. Mais ici, par quoi, qu'est-ce qu'on entend par ceci? Eh bien, on entend la relation suivante. Donc on peut former, donc ceci c'est le produit de 2 vecteurs, donc on peut former un scalaire, on peut décomposer, il y a un scalaire, il y a un vecteur, donc ici on n'a que le scalaire qui est l'énergie, qui est H. Donc je vais utiliser cette notation qui est assez commode et qui a été introduite, comme je l'ai dit, par Bakri et Lévy-Leblond dans leur premier article. Donc c'est ceci qui caractérise Poincaré, ou Lorentz. Les relations ici c'est juste l'isotropie de l'espace, à 3 dimensions, et comment on se transforme pour l'espace à 3 dimensions ces objets. Mais ceci, par contre, c'est réellement la relativité de Lorentz d'Einstein qui apparaît, la relativité restreinte. Alors, avant de donner la définition générale des algèbres de Lie cinématique, je vais peut-être en donner 2 autres exemples. Les exemples qu'on obtient en prenant à partir de cette algèbre la limite C tendant vers l'infini et C tendant vers 0. Alors C tendant vers l'infini, ça va nous donner ce qu'on appelle l'algèbre de Galilée, parce que c'est elle qui décrit la relativité galiléenne. Et une manière simple de l'obtenir, c'est se rappeler que, en fait, avant qu'on étudie la relativité restreinte, H et P étaient étudiés en un sens séparément. Il y a l'énergie qui a les dimensions d'une énergie, P des dimensions d'une impulsion. Il se fait qu'en multipliant par C, c'est ce qu'on fait toujours, on peut donner les mêmes dimensions à H et à P. Mais supposons que je ne multiplie pas par C, donc je n'ai pas encore étudié la relativité restreinte, donc je vais avoir, disons, H, et je vais avoir un P galiléen qui est naturellement 1 sur C fois le P utilisé en relativité restreinte, qui a des dimensions d'une m fois une vitesse. Et là, c'est m fois une vitesse au carré. Et donc, ça c'est m fois une vitesse au carré pour me donner m fois une vitesse, celui-ci. Et puis, pareil pour les boosts. Naturellement, les dimensions des boosts, c'est 1 sur C fois la dimension d'un moment angulaire. K et MIJ ont les mêmes dimensions là, mais on peut le faire parce qu'on utilise C. Mais si on n'utilise pas C, ben on aura K galiléen est égal à 1 sur CK. Et donc si je réécris les relations de commutation en termes de ces nouveaux objets, je ne vais pas réécrire celle où c'est 0 parce que ça ne change rien, mais c'est intéressant d'écrire K G KG. Donc ça va me donner un 1 sur C carré K fois K, c'est-à-dire moins J. H KG, ben là, comme j'ai divisé par C PG, ça va me donner juste PG. Ça ne change pas. Et puis PG KG, ça va être 1 sur C carré PK, PK c'est H, donc c'est 1 sur C carré H. Donc ici, je n'ai rien fait, c'est juste un changement de base. J'ai réécrit les relations de commutation là, dans une nouvelle base où j'ai changé certains générateurs, j'ai multiplié certains générateurs par 1 sur C. Mais maintenant, je vais prendre la limite C tendant vers l'infini, qui correspond à une des limites non relativistes possibles, la limite de Galilée. Et dans ce cas-là, vous voyez que j'obtiens des relations de commutation qui changent. J'obtiens 0 ici, j'obtiens 0 là. Donc j'obtiens une nouvelle algèbre, qui n'est plus la même, et qu'on appelle l'algèbre de Galilée. Et donc si je la réécris en laissant tomber le G pour Galilée, donc j'utilise pour les nouveaux générateurs la même notation que pour les anciens, donc ça peut prêter à confusion, mais si on le sait, on se débrouille. Donc je vais avoir que donc j'ai réécrit, donc j'ai comme nouvelle relation intéressante, KK égale à 0, ce qui n'est pas la même que celle-ci, et j'ai PK égale à 0. Et les autres sont les mêmes. Donc les autres, c'est HP égale à 0, PP égale à 0, HK égale à P, et PK égale à 0, je l'ai écrite. D'accord ? Donc ça, c'est une algèbre qu'on appelle l'algèbre de Galilée, et par construction, c'est bien une algèbre de Lie, c'est-à-dire que les identités de Jacobi sont satisfaites parce qu'elles sont satisfaites pour tout C, donc elles sont satisfaites à la limite. Alors vous voyez qu'on a exactement le même nombre de générateurs, les relations de commutation avec les J sont exactement les mêmes parce que vous voyez que ces redéfinitions, comme c'est linéaire ici, donc si je mets 1 sur C, 1 sur C, ça ne change pas, 1 sur C, 1 sur C, ça ne change pas. Donc tout ça est inchangé, mais les relations qui font intervenir les boosts sont changés. Effectivement, c'est des limites toujours un peu subtiles. Il faut dire, quand on fait tendre C vers l'infini, il faut dire ce qu'on maintient constant, effectivement. Donc ce que je maintiens constant, c'est KG. Mais effectivement, c'est une bonne question. Donc en général, il faut toujours être très précis, ce que je n'ai pas été. Mais donc effectivement, quand on fait tendre C vers 0, il faut savoir si c'est avant avoir redéfini, qu'est-ce qu'on maintient constant, qu'est-ce qu'on ne maintient pas constant. Effectivement, si on maintient constant quelque chose après avoir redéfini les choses, ça veut dire que la quantité de départ n'est pas maintenue constante. Donc c'est toujours un peu subtil ces limites, hein, mais à la fin, on arrive à quelque chose qui a un sens et qui est bien défini. Bon. Une autre limite intéressante, et c'est la limite où je vais pouvoir... Bon, alors évidemment, cette limite n'est pas adaptée pour faire tendre C vers 0. On va faire d'autres définitions, et ça c'est le groupe de Carole. On va voir que c'est celui-là qui apparaît effectivement quand C tend vers 0. Là je vais faire H Carole, la redéfinition appropriée, c'est C fois H. Et P Carole ne change pas. Mais K Carole est égal à C fois K. Dans ce cas-là, si vous regardez les relations de commutation, mais vous voyez que K fois K, ça va me donner donc c'est le nouveau K, K Carole fois K Carole, c'est C carré fois ceci. Et donc si je fais tendre C vers 0, je vais avoir comme relation de commutation K K égale à 0. Et je laisse tomber Carole. Donc c'est un peu... Donc il y a Carole ici, hein, mais je ne... Et puis l'autre relation qui va changer, P, donc ça va être maintenu, donc contrairement à ce qu'il y avait ici, là on va avoir PK, donc c'est une algèbre différente, PK, hein, on met un C là et un C là, donc ça reste. Donc à nouveau, je calcule les commutateurs et puis je n'écris plus le C. Hein. Donc c'est ça qu'il faut faire attention à ça. Et puis les autres relations, donc ça celle-là ne change pas. HK va être aussi égal, je vais avoir du C carré fois P, donc ça devient 0. Et les autres relations, c'est des zéros, ça reste inchangé. Mais donc vous voyez que cette fois-ci, en prenant une autre limite que je fais en redéfinissant les choses différemment et en maintenant constante d'autres choses, j'obtiens une autre algèbre. Et à nouveau, ces algèbres ont la propriété d'avoir les mêmes relations de commutation avec les rotations. Parce que si je multiplie si je mets un C ici, ben comme je l'aurai là aussi, donc ça simplifie, enfin, il n'y a pas de C carré qui reste ou de 1 sur C ou quoi que ce soit, et idem, bon là, a fortiori, vous mettiez un C ou pas, ça reste inchangé. Donc, les algèbres qu'on obtient à la limite partagent avec Poincaré deux propriétés, elles ont exactement le même nombre de générateurs, 10, et ces générateurs ont exactement les mêmes relations de commutation avec J. On va appeler algèbre cinématique toute algèbre qui possède 10 générateurs, comme ici, ayant ses propriétés de commutation avec J. Donc on ne veut pas changer les propriétés d'isotropie de l'espace et donc les relations de commutation avec SO3. Par contre, on n'impose rien sur les autres relations de commutation. Donc les algèbres cinématiques sont des algèbres qui vont se distinguer l'une de l'autre, non pas par ça, c'est toujours la même chose, mais par les relations de commutation que j'ai écrites ici, qui distinguent effectivement Carol de Galilée et de Poincaré. Et on peut se poser la question, et c'est la question que se sont posées Bacri et Lévy-Leblond, est-ce qu'il existe encore d'autres possibilités? Et si oui, quelles sont-elles? C'est un problème algébrique, l'algèbre de Lie. Et c'est le problème que je vais résoudre ici, je vous montrerai en tout cas comment on le résout, avec une hypothèse supplémentaire que je vais formuler pour que je puisse rester en déant l'heure et demie de cours, et je vous dirai ce qui se passe quand on lève cette hypothèse. Et l'hypothèse que je vais formuler, et qui permet de faire les calculs explicitement au tableau, c'est qu'il y a une symétrie supplémentaire de l'algèbre sous les réflexions d'espace et l'inversion du temps. Donc si je regarde les générateurs de Poincaré et que je les écris en termes de vecteurs de Killing de la métrique de Minkowski, hein, H ça va être D sur DT, P c'est D sur DXI, MIJ, je ne l'ai pas écrit, non, MIJ c'est essentiellement XI D sur DXJ moins XJ D sur DXI, donc ça c'est pour Poincaré, hein. On aura d'autres réalisations pour les autres groupes, bien entendu. Et les boosts, c'est x0 d sur dxi moins xi d sur dx0. 3, 9, 9, 10, d'accord. Bon, alors vous voyez que si vous faites la réflexion pour l'inversion du temps, je voudrais l'écrire ici. Donc, si je fais d'abord la parité, donc xi va en moins xi, alors h va en h, p va en moins p, le j est un pseudo-vecteur, hein, mais donc une manière de voir ça, c'est qu'il y a deux changements de signe, donc lui il se transforme comme ceci. J va en J, se transforme pas, et K va en moins K. Alors si vous examinez les relations de commutation de Poincaré, elles sont invariantes pour cette transformation. Par exemple, 2K, ben ça change de signe pour parité, donc ceci ne change pas de signe, et le J, on ne peut pas avoir du P ici, parce que si on avait du P ici, ça ne serait pas invariant pour cette transformation-là, mais on n'a que du J. On n'a pas de K non plus. Donc en fait, vous pouvez vérifier que ces relations de commutation sont invariantes pour ça, c'est un automorphisme de l'algèbre. Et de même, si je regarde le renversement du temps, Donc si je fais x0 va en moins x0 sur ces vecteurs de Killing, où t va en moins t, donc vous voyez que h va en moins h, p va en p, j va en j, mais k va aussi va en moins k, puisque x0 change de signe. Et alors à nouveau, vous pouvez vérifier que ces transformations laissent les relations de Poincaré invariantes. En fait, Galilée, c'est aussi invariant pour ça, et Carole, c'est aussi invariant pour ça. Donc ce que je vais faire dans la leçon d'aujourd'hui, c'est déterminer toutes les algèbres cinématiques, donc caractérisées par ces relations de commutation, qui sont également invariantes pour ces transformations. C'était le cas qu'ont considéré en premier Bakri et Lévy-Leblond, et après ils ont regardé avec Neutz, le cas général où on laisse tomber cette hypothèse, mais alors ça prend plus de temps à expliquer. Et déjà considérer ce cas-ci donne une bonne idée du type de calcul qu'on doit faire pour déterminer complètement toutes ces algèbres cinématiques. Donc je vais me placer sous ces hypothèses. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui manque? Donc on va voir quelle est la forme, pardon, de possible des commutateurs. Donc ce qui manque, c'est les commutateurs HP, KK, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ils sont soumis à l'identité de Jacobi et à cette hypothèse supplémentaire que j'impose. Donc si vous regardez par exemple HP, a priori, donc ça doit être un vecteur, donc on pourrait avoir du P, on pourrait avoir du K, on pourrait avoir du J. Mais si je fais la parité, P change de signe. Donc si on veut avoir quelque chose qui soit invariant, il faut mettre ici un vecteur qui change de signe par parité. Ça exclut J. Donc la seule possibilité, c'est du P ou c'est du K. Donc a priori, on pourrait avoir alpha K plus bêta P. Peut-être pas bêta, plus AP. Mais, donc ça c'est bon pour la parité. Si je regarde maintenant le renversement du temps, H change de signe, P ne change pas de signe, donc il faut ici quelque chose qui change de signe, donc on ne peut pas avoir du P. Donc en fait, vous voyez, ça simplifie grandement d'imposer ces conditions supplémentaires. La seule inconnue dans la relation de commutation HP, c'est alpha K. Alors, il faut aussi connaître PP. Hein, il faut déterminer toutes les relations de commutation ici, des autres générateurs. Alors, à nouveau, ici, c'est un vecteur fois un vecteur. Donc, je pourrais avoir un scalaire qui est delta IJ fois quelque chose, mais comme c'est antisymétrique, je ne peux pas avoir du delta IJ. Donc, la seule possibilité, c'est la partie vectorielle. Je pourrais avoir du K, je pourrais avoir du P, je pourrais avoir du J. Mais ceci ne change pas de signe ni pour la parité, ni pour le renversement du temps. C'est deux fois le même, donc ceci est invariant. Donc la seule possibilité ici, c'est du J. Donc on connaîtra complètement cette relation de commutation quand on aura déterminé ce coefficient. Alors, pareil pour HK. La seule possibilité compatible avec cette hypothèse supplémentaire, c'est d'avoir du P ici. Je vais appeler le coefficient correspondant lambda. Alors K avec K, ça doit être. Donc il ne peut pas y avoir de partie scalaire, ça serait proportionnel à delta IJ, mais ça doit être antisymétrique, donc ce n'est pas là. Donc il doit y avoir un vecteur. Et à nouveau, c'est invariant, puisque c'est deux fois la même chose. Sous P et sous T, donc sous la parité et sous T, donc en fait le seul candidat possible c'est J. Et puis on doit encore avoir PK. Alors ça c'est un, il y aura une partie vectorielle et une partie scalaire. Je vais d'abord écrire la partie scalaire, donc j'écris rho H. Donc ceci ça veut réellement dire PI KJ égale delta IJ rho H. Hein. Donc il y a des indices qui sont cachés et là, il y a les composantes IJ de la matrice unité qui est que je n'écris pas non plus. Mais je pourrais avoir aussi une partie vectorielle. Alors, regardons d'abord qu'est-ce qui est autorisé. Donc, sous la parité, P et K changent de signe. Et donc, il faut un vecteur qui ne change pas de signe. Donc, on pourrait avoir du J ici, ce serait compatible avec la première ligne. Mais ensuite, sous le renversement du temps, P ne change pas de signe alors que K change de signe. Donc, avoir du J là, ce n'est pas bon parce que J ne change pas de signe. Donc, en fait, la seule possibilité, c'est le terme que j'ai écrit. Et donc, vous voyez qu'en imposant ces conditions, ben, l'algèbre est en fait complètement caractérisée par la valeur de alpha, bêta, lambda, mu et rho. Donc, il y a un certain nombre de ces... Certaines valeurs correspondent à Poincaré, d'autres valeurs correspondent à Galilée, d'autres valeurs encore correspondent à Carol. Mais donc, tout le but de la classification va être de déterminer ces coefficients. Et ces coefficients, ils sont soumis à quoi ? Ben, on va avoir une algèbre de Lie, ils sont soumis à l'identité de Jacobi. Donc l'identité de Jacobi va nous donner des équations sur ces coefficients et on va chercher la solution générale de ces équations. Alors je ne vais peut-être pas écrire toutes les identités de Jacobi, enfin dériver toutes les identités de Jacobi maintenant. Je vais écrire les deux premières, enfin dériver peut-être les deux premières et puis je vous écrirai les suivantes. C'est toujours la même chose. Donc les identités de Jacobi, donc peut-être je vais quand même faire de. Non, pour le moment ça va. Je vais peut-être gérer le tableau à un moment donné. J'aurai à un moment donné des difficultés de gestion du tableau, mais pas encore. Jacobi. Donc Jacobi, c'est l'identité qui fait intervenir un cyclique, hein, A, I, ou A, B, C, plus B, C, A, plus C, A, B, égale à 0. Donc il faut s'assurer, on va voir que ceci impose des conditions sur les coefficients, des relations non linéaires sur ces coefficients. Alors, les identités de Jacobi qui font intervenir les J, elles sont automatiquement satisfaites parce qu'on sait que ça c'est le SO3 et les représentations de SO3. Donc on ne doit pas se préoccuper des relations qui font intervenir J, vous pouvez le voir directement d'ailleurs par vous-même comme exercice, elles sont satisfaites. Donc les seules relations nouvelles, relations qui vont apporter quelque chose de non trivial sur ces coefficients, c'est celles où apparaissent P, H, K, etc. Donc soyons systématiques, commençons par exemple par la relation P avec 3P. Donc je vais écrire ça comme ça. Donc avec 3P, j'écris explicitement les indices, donc c'est PI, PJ, PK, plus PJ, juste je fais ça pour vous donner une idée de comment on procède, hein. C'est pas très compliqué, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut écrire PK, et évidemment le danger quand on écrit au tableau, c'est que au tableau, c'est difficile de ne pas faire de faute. Mais bon, quand on ne regarde pas ses notes. Alors, ceci, on sait que c'est bêta. Donc ceci, c'est bêta epsilon j k m j m. Ceci, c'est bêta epsilon k i m j m. Et ça, c'est bêta epsilon IJM, JM, hein, par cette relation. Et puis PI avec J, ben, ça me redonne à nouveau du P. On a vu ça, hein, PI avec... Ben, ce qu'on a vu, c'est la chose suivante. J, I, P, J, c'est epsilon IJK, P, K. Et donc... je vais avoir à calculer ici le commutateur de PI avec JM, ce qui va me donner un deuxième epsilon fois du P. Ici, je vais avoir des termes qui ont exactement la même structure, un produit de deux epsilon fois du P, puisque J avec P, ça me donne du P. Et ici, pareil. Donc je vais avoir trois termes qui ont exactement la même structure, qui font intervenir un produit de deux epsilon et un P. En utilisant les identités sur les epsilon, le produit de deux epsilon, on peut le réécrire comme des produits de delta, on peut vérifier que cette identité elle est automatiquement satisfaite, que ça n'apporte rien, aucune contrainte sur bêta. On s'y attendait d'ailleurs que ça, enfin, donc je vais pas le faire explicitement ici au tableau, je vous laisse faire ça comme exercice, mais c'est évident qu'on peut pas avoir de contrainte sur bêta, parce qu'on sait que bêta c'est un nombre, et on sait qu'il est non nul, parce qu'on a un exemple où ça marche. Ah non, on n'a pas d'exemple où ça marche ici, pardon. Il y a des algèbres connues où on sait que c'est non nul. Enfin, bref. Donc, en fait, on a exactement le même calcul avec K et K. On ne va pas avoir de contrainte sur mu, pour exactement la même raison, parce que les relations de commutation sont pareilles avec J. Et donc, et là, on sait que mu peut être différent de 0. Donc, là, j'ai des exemples quand même, ici. Bien, donc ceci n'apporte rien. Mais je vous laisse faire ça comme exercice. C'est juste des identités sur les epsilon. Ce qui apporte quelque chose, c'est plus intéressant, c'est PPK. Et là, je vais le faire explicitement. P, P, K. Donc là, on va calculer explicitement P. Oui, pour une raison mystérieuse, j'ai regroupé les termes comme ça. C'est équivalent. Hein, PI, PJ, K, K. Donc je l'écris comme ça, l'identité de Jacobi, c'est exactement pareil. Hein, PJ, KK, PI, plus KK, PI, PJ. Donc il faut que ça soit égal à 0. Donc ça c'est un peu plus intéressant parce qu'on va obtenir une relation non triviale. Alors P avec P, c'est bêta. Epsilon IJ. Donc ceci va me donner bêta, epsilon IJK, on ne va pas utiliser K parce qu'il est déjà pris, M, et je vais avoir JM K, K, plus, alors PJ K, K, c'est ici, 0, delta JK HPI. Et ici, pareil, sauf que j'ai un signe moins. Donc c'est moins puisque c'est dans l'ordre KP. Donc moins delta IK HPJ. Alors, oui, ceci, c'est égal à quoi ? JM KK, on a vu que c'était epsilon IJM, donc epsilon MKL KL. K se transforme comme un vecteur. HPI, on l'a écrit ici, c'est alpha KI. Donc j'ai plus rho delta JK delta qu'est-ce que j'ai dit ? C'est alpha KI. Et puis j'ai moins rho delta IK alpha KJ. Donc ça doit être égal à 0. Alors, bonne chose d'abord, c'est que tout est proportionnel à K. Donc, s'il faut s'assurer, c'est que le coefficient de K, L, disons, est égal à 0. Donc, je peux écrire ça comme un certain coefficient fois KL, sommé sur L. Il faut que les coefficients, si on veut que ce soit égal à 0, ben, il faut que les coefficients soient nuls. Alors, c'est ici que je vais utiliser l'identité dont j'ai parlé. On utilise aussi l'identité dont j'ai parlé. Il y a une somme sur M. Donc, j'ai un delta I, et bon, je peux le mettre, c'est dans le même ordre. Donc, j'ai delta IK moins delta, pardon, delta IK fois delta IK fois delta JL, moins delta IL, delta JK. Et donc, vous voyez apparaître des termes qui ont la même structure que ceux-ci. C'est bon, donc on va pouvoir avoir quelque chose. Enfin, on aura une relation intéressante sur les coefficients. Et donc, vous voyez, d'abord, il y a une sommation sur L, mais donc là, j'ai du KJ. Donc, le premier terme ici va être le même que celui-là. Donc, pour que ce soit nul, on aura besoin, en fait, que... Et pareil, l'autre va être le même, avec le même coefficient. Donc, il faut que bêta moins alpha rho soit égal à 0. Donc, si on veut que ça soit égal à 0, ça implique que bêta moins alpha rho... Pourquoi... Donc, si je regarde le premier, hein, delta IK, delta JL... C'est sommé sur L, donc ça me donne du KJ. Donc j'ai du delta IK KJ. Le coefficient là, c'est bêta, et le coefficient ici, c'est, rho, c'est moins rho alpha. De l'autre côté, j'ai à nouveau moins bêta et plus rho alpha avec quelque chose qui est le même. Donc effectivement, la condition nécessaire et suffisante pour que ça soit égal à 0, c'est que bêta, alpha et rho soient liés par cette relation. Donc je vais les écrire ici. Alors, il est clair que si vous prenez une relation maintenant où j'aurai deux K et un P, ben, je vais juste inverser les rôles de deux K et un P, alpha et lambda, et bêta et mu, puisque c'est ce que j'ai utilisé. Donc je vais avoir la même relation, mais enfin il faut faire attention aux signes aussi. Et donc en fait, les autres identités... Donc je vais pas faire ça en détail maintenant, je vous donne le résultat. En regardant 1K et 2K et 1P, donc le même type de calcul, mais je mets KI, KJ, PK, c'est clair que ça va être la même chose, puisqu'il y a une grande symétrie dans la structure, mais je vais obtenir cette fois-ci comme relation mu, je l'écris ici, mu, plus rho lambda égale à 0. Et puis maintenant, il faut regarder les identités Jacobi qui font intervenir un H et 2P, un H et 2K, un H, un P, un K. C'est à nouveau assez routine comme calcul, c'est exactement le même type de calcul. Donc à nouveau, je ne vais pas répéter ça explicitement au tableau parce que sinon ça prend un temps infini. Je vais juste écrire la relation qu'on tire. En fait, H, P, P, c'est trivialement satisfait, donc ceci n'apporte rien. H, K et K n'apportent rien. Ce qui apporte, c'est H, P et K. Et qu'est-ce que ça apporte comme relation? Ça apporte la contrainte que alpha mu plus lambda bêta est égal à 0. Donc, une algèbre cinématique est complètement déterminée par les coefficients alpha, bêta, lambda, mu et rho qui sont soumis à ces conditions. Et donc, il faut trouver la solution générale de ces équations. Alors, il faut trouver la solution générale à un isomorphisme près, parce que on peut tout, si je fais une transformation linéaire de mes générateurs et que ça change les relations, les valeurs des coefficients, c'est toujours la même algèbre décrite dans une autre base. Donc, on va regarder quelles sont quelle est la marge de manœuvre dans les redéfinitions et comment les coefficients se transforment. Je vais faire ça ici. Et puis, on va résoudre ces équations. Alors, quelle est la marge de manœuvre? Ben, je peux redéfinir H par un multiple de H. Donc évidemment, je ne veux pas changer ceci, et je veux aussi préserver cette symétrie. Donc je ne peux pas mélanger des P avec des K dans mes définitions. Bon, là, ça marche, ça n'est pas un problème. Mais là, je mettrai ensemble des poires et des pommes. Donc il faut garder P ne peut être défini qu'en termes de P, J en termes de J, K en termes de K et H en termes de H. C'est un scalaire. Donc les redéfinitions possibles, en fait, c'est, je vais écrire ça ici, H va en 1 sur A, H va en A, H. Je peux redéfinir aussi P. Je peux définir K, redéfinir K. J'appelle le coefficient C. Et comment se transforment les bêta, lambda, mu, rho et alpha par ces redéfinitions? Mais vous voyez que si je redéfinis les choses comme ça, le nouvel alpha va différer du précédent par le produit A fois B, puisqu'il y a du K ici, divisé par C. Donc, pour ces redéfinitions, alpha va en alpha prime qui est égal à AB divisé par C. Alors, bêta, ben lui, vous voyez qu'il va obtenir B carré. Donc bêta prime, bêta va en bêta prime qui est égal à b carré bêta. De même, lambda, c'est un peu comme celui-ci, donc lui ça va se transformer en bc divisé par a, donc lambda prime égale fois lambda. Rho qui fait intervenir. Je ne sais pas pourquoi je le fais dans cet ordre-là, mais c'est parce que c'est dans mes notes comme ça. Rho, c'est ce qui apparaît ici. Donc, vous voyez que c'est multiplié par BC divisé par A. Et alpha, je l'ai pas. Non, alpha, je l'ai déjà écrit. Bêta, je l'ai écrit. Lambda, je l'ai écrit. Rho, je l'ai. Mu, je ne l'ai pas encore écrit. Donc, mu va se transformer en c carré. Donc, une telle redéfinition des alpha, bêta, lambda, mu et rho ne donne pas une algèbre de Lie différente. Donc, il faut identifier deux algèbres de Lie qui différeraient juste par une telle redéfinition. Donc, on va utiliser ces redéfinitions possibles pour se simplifier la vie. Alors maintenant, je vais faire la classification. Et je vais utiliser les notations de Bacri et Lévy-Leblond. Et donc, ils distinguent deux classes selon que rho est différent de 0 ou rho égal à 0. Donc, ils appellent la classe... Je voudrais écrire tous les résultats ici. Donc je vais effacer, on les retrouvera dans la liste, hein. Ne vous en faites pas, puisque je suis en train de faire, je vais faire la classification exhaustive. Mais je les efface parce que j'ai un tableau qui a une surface finie. Alors, la première catégorie, c'est les algèbres de Lie caractérisées par rho différentes de 0. Qu'ils ont appelé la classe R. Alors pourquoi R? R, c'est pour relatif. C'est parce que dans ces algèbres de Lie, quand on regarde leur action sur l'espace-temps, et on verra ça plus tard, donc j'anticipe un peu ce qu'on verra plus tard, il n'y a pas de temps absolu. Il n'y a pas d'hypersurface T égale constante qui soit invariante pour les transformations du groupe. Mais évidemment, il faut regarder comment le groupe agit sur l'espace-temps, et je ne l'ai pas encore fait. Donc ça, mais anticipant cela, il y a la classe R pour temps relatif, et puis il y aura une classe A pour temps absolu. Galilée va être dans la classe A, ce n'est pas une surprise, Poincaré va être dans la classe R. Alors, classe R, donc c'est caractérisé par rho différent de 0. Je vais calculer les choses là et puis j'écris le résultat ici. Rho égale à 0, ben si rho est, différent de 0, je peux toujours, en choisissant bien B, C et A, m'arranger pour que rho prime soit égal à 1. Donc on va simplifier la vie. On va supposer rho prime, que je baptise immédiatement rho en laissant tomber les primes. On va supposer que rho est égal à 1. Alors si rho est égal à 1, ces deux relations-ci sont très faciles à résoudre. Bêta est égal à alpha et mu est égal à moins lambda. Qu'est-ce que j'ai dit? Bêta est égal à alpha et mu égal à moins lambda. Alors, on va considérer les cas les plus compliqués d'abord et puis on va simplifier au fur et à mesure. On va d'abord supposer que alpha et lambda sont différents de 0. Ça va être la classe R1. Donc on suppose qu'il n'y en a aucun qui est nul, parce que alors ça implique aussi que bêta est différent de 0 et mu est différent de 0. Et je vais voyez qu'ici B se transforme, mais est multiplié par un nombre strictement positif. Donc on peut changer comme on veut la grandeur de bêta, mais on ne peut pas changer le signe. Donc on va avoir deux cas selon que bêta, donc on va supposer que bêta est égal à 1, donc ça va nous fixer B, que mu est égal à 1, donc ils sont tous, comme ils sont égaux au signe près, en valeur absolue égaux à 1. Donc, alors ça fixe B et C au signe près, et comme on a aussi fixé le rapport BC sur A, il ne reste plus beaucoup de... on a tout fixé au signe près. Donc voilà, donc on a exploité tout en faisant ces nombres comme cela. Et donc, maintenant, on a deux cas à considérer, mu égale à 1 et mu égale à moins 1. Alors faisons d'abord mu égale... j'ai fait d'abord mu égale à moins 1 dans mes notes, donc je vais suivre l'ordre de mes notes. Faisons d'abord égale mu égale à moins 1, et puis je ferai mu égale à 1. Si mu est égal à moins 1, donc ça veut dire que rho, que lambda est égal à 1, donc c'est fixé. Et donc ça veut dire que kk est égal à moins j. Je vais décrire. Donc ça, c'est peut-être le cas... Oui, c'est le cas R1. Donc KK est égal à moins J. Et on a deux cas à considérer selon que... parce que le signe de bêta est indépendant du signe de mu. Donc on peut considérer bêta est égal à 1 et bêta est égal à moins 1. Une fois qu'on... Donc on a ce sous-cas-ci, et dans ce sous-cas-ci, il y a deux sous-cas, bêta égale à 1, bêta égale à moins 1. Bêta égale à 1, ça veut dire que alpha est égal à 1, donc on connaît tout. Bêta égale à moins 1, ça veut dire que alpha est égal à moins 1. Donc cette première algèbre, si je l'écris en détail, je vais donc avoir HP est égal, normalement j'ai alpha k, mais donc si j'ai pris bêta égale à 1, je garde le premier k, alpha est égal à 1, donc c'est K. Je vais avoir aussi PP. Alors dans ce cas-là, c'est bêta. Et j'ai dit que, on regarde le premier K, bêta égal à 1, donc c'est J. Puis je vais avoir HK. Donc HK, c'est lambda. Lambda est égal à 1, donc c'est P. Vous voyez, toute l'algèbre est déterminée. Et puis j'ai KK est égal à mu est égal à moins 1, moins J. Et puis j'ai PK, la dernière, qui est égal à rho fois H, mais donc c'est 1, donc c'est H. Alors ceci, c'est une algèbre simple, bien connue, qui est SO4-1. C'est l'algèbre qu'on appelle aussi algèbre de Sitter. Donc une algèbre cinématique possible, et qui correspond à le moins de zéro possible dans les coefficients, si je puis dire, c'est SO4-1, cette algèbre-ci. Alors ça ne se voit pas tout de suite, mais vous voyez en fait les... c'est une algèbre non abélienne. On revoit P et P donne du J. Donc il y a deux types de boosts, les P et les K, en fait, si vous, d'une certaine manière. Et ça donne du J quand on les commute, et entre eux, ils donnent le H. Donc si vous regardez dans les tables, c'est bien SO4-1. L'autre possibilité, donc ça correspond à au cas que j'ai appelé mu égale à moins 1. Et on a fait le choix, bêta est égal à 1. Je peux maintenant toujours prendre mu égal à moins 1 et faire bêta égal à moins 1. Ça va changer cette relation-ci, et tout le reste. Et donc aussi, puisque bêta est égal à alpha, ça va changer cette relation-ci. Donc vous pouvez écrire les choses. Donc ça va être HP égal à moins K, parce qu'elle change de signe. Le reste ne change pas. Enfin, PP, c'est égal à bêta. J'ai dit 6, ça change de signe, donc c'est moins J. Et puis les autres, c'est HK égale à P. Vous voyez, il faut être systématique. Hein. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est assez facile. Hein, on résout l'identité de Jacobi modulo la liberté qu'on a. Et puis PK est égal à H. Et à nouveau, c'est une algèbre connue, mais écrite de manière décomposée dans l'espace et le temps. C'est en fait aussi une algèbre orthogonale, c'est SO32. Et c'est l'algèbre anti-de-Sitter. Donc pour ceux qui connaissent anti-de-Sitter, je vous appelle à vérifier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la définition de anti-de-Sitter, c'est SO32. Et donc ça, c'est le cas où mu est égal à moins 1. Là, c'est mu égal à moins 1, toujours. Et bêta est égal à moins 1, l'autre signe. Alors, on peut regarder aussi les cas mu égal à plus 1. Il faut être systématique. Hein. Dans ces classifications, l'idée, c'est qu'on regarde tous les cas possibles. Donc, il faut regarder mu égal à plus 1. Dans ce cas-là, lambda est égal à moins 1. Et il y a deux cas possibles, toujours pour bêta, puisque le signe de bêta n'est pas corrélé au signe de mu. Bêta égal à 1, bêta égal à moins 1. Alors, de manière non surprenante, ce qu'on va obtenir dans ce cas-là, je ne vais pas faire le calcul explicitement, on retrouve à nouveau SO4-1. Donc, SO4-1, il apparaît dans les... Enfin, on peut montrer que un choix de signe va me donner SO4-1. Donc, il apparaît deux fois, mais donc il y a un isomorphisme qui existe dans ce cas-là, mais aussi SO5. Donc, on a des formes réelles de SO5... Oui, qui apparaissent. Mais SO5, on va l'exclure. On va l'exclure pourquoi? Parce que SO5, c'est un groupe compact. Ça veut dire que toutes les transformations sont compactes. Donc ça veut dire aussi que l'action des boosts doit être compacte. Ça veut dire que si les boosts étaient identifiés à un des générateurs d'un 105, ça veut dire que quand vous augmentez la vitesse, à un moment donné, c'est comme si vous n'aviez pas de vitesse. Donc on identifie des choses si c'est compact. Et donc ça, physiquement, on a envie quand même d'avoir des groupes cinématiques qui correspondent à ce qu'on sait sur les vitesses. Et donc on va exclure SO5. Il apparaît comme solution, mais sur des bases physiques, on l'exclut. Et donc le premier cas R1, c'est essentiellement les groupes de Sitter. Ce sont les groupes de De-Sitter et anti-De-Sitter. C'est le cas le plus compliqué, parce que c'est là où il y a le plus de termes non nuls. Alors le cas suivant, où on... se simplifie on simplifie un peu les choses, qu'on va appeler R2. Bon, là, c'est pas une terminologie super explicite. On va à nouveau, donc on est dans la classe R où ρ est différent de 0. On va cette fois-ci imposer alpha égal à 0. Donc, du coup, si j'impose alpha égal à 0, bêta est égal à 0. Donc, il n'y a plus que lambda et mu à déterminer. Et à nouveau, je peux faire mu égal à plus ou moins 1 par ceci, mais ce qui va impliquer par cette relation-là que lambda est alors égal à moins ou plus 1. Donc il y a réellement deux cas, mu égal à plus 1, mu égal à moins 1. Donc, mu égal à moins 1, donc dans ce cas-là, lambda est égal à plus 1. Je vous invite à vérifier que dans ce cas-là, donc HP, on voit tout, HP égale à 0, PP est égal à 0, HK me donne P, et KK me donne moins J, et PK me donne H, c'est point carré. Donc point carré est ici dans la liste. Si maintenant vous faites mu est égal à 1 et donc lambda égal à moins 1, vous avez une algèbre où cette fois-ci, on peut voir que J et K forment SO4 avec J. pardon, J et K vont former ce cas. Donc, si lambda est égal à moins 1 et que mu est égal à 1, vous avez K, K égal à J, et puis les relations qui sont là entre J et K. Donc en fait, K est de nouveau un générateur compact, donc ça on l'exclut pour cette raison, K compact. Et on n'en veut pas. Donc il y a essentiellement un seul cas R2, puis on a R3. Cette fois-ci, au lieu de faire alpha égale à 0, on va faire mu égale à... oui, ou lambda égale à 0. Donc on va supposer... Oui, donc là j'ai supposé que mu était différent, ou lambda était différent de 0. Sinon j'aurais pas pu faire égale à 1, à plus ou moins 1. Là je vais supposer maintenant que alpha est différent de 0 et que lambda est égal à 0, donc ce qui implique que mu est égal à 0. Et donc à nouveau, je peux faire bêta est égal, c'est de nouveau la même analyse, hein. Je peux jouer sur la valeur de bêta par cette relation-ci, ce qui me permet de dire que bêta est en valeur absolue égale à 1, donc j'ai bêta égale à 1 et bêta égale à moins 1, donc il y aura deux cas qui apparaissent. Et en fait, les deux cas sont, donc on aura alpha égale à 1, bêta égale à 1, alpha égale à moins 1, bêta égale à moins 1. Donc ça, c'est, toute cette possibilité sera complètement prise. Alors je vais vous écrire les relations. C'est ce qu'on appelle les groupes de Carroll cosmologiques. Donc on aura H, à nouveau, hein, il suffit de traduire les valeurs dans cette table. Hein. Donc je vais accélérer quand même. PP est égal à J. Hein, si bêta est égal à 1, alpha est égal à 1, mais après ça simplifie parce que c'est 0. H, K est égal à 0. K, K est égal à 0. Et PK est égal à H. Et puis il y a l'autre possibilité, si bêta est égal à moins 1, où il faut changer les signes ici, et le reste est le même. Donc c'est ce qu'on appelle les groupes de Carroll cosmologiques, il y en a deux. Et le groupe de Carroll va venir maintenant. C'est donc ce qu'on appelle le cas R4. Donc on est toujours dans le carreau égal à 1. Rappelez-vous ceci, je vais juste vous donner la solution. R4, ben R4 c'est, on fait alpha égale à 0, bêta égale à, et lambda égale à 0. Donc tout est égal à 0 sauf rho. Donc il y a beaucoup de zéros ici. La seule relation qui est non nulle, c'est celle-ci, pk différent de 0. C'est-à-dire pk égale à h même. Donc les autres sont nuls. Et vous pouvez vérifier que ça correspond exactement au groupe de Carroll introduit précédemment. Donc il apparaît, bon il doit, hein, mais il apparaît bien dans la classification et c'est ici qu'il apparaît. Et puis on continue. On a fait la liste exhaustive de tous les cas où ρ était différent de 0. Maintenant, on va considérer la classe A qui est caractérisée par ρ égal à 0. Alors, si ρ est égal à 0, il y a une grande simplification. Bêta égal à 0 et mu est égal à 0. Vous voyez, l'identité de Jacobi, là, elle est assez forte. Et donc, la seule chose qu'il faut déterminer, c'est alpha et lambda. Et donc à nouveau, on va procéder par ordre de difficulté décroissant. Donc on commence par le cas le plus compliqué, alpha différent de 0, lambda différent de 0. Alors je peux faire lambda égal à 1 en utilisant cette liberté. Mais alors, alpha, bon, vous pouvez voir que si lambda est égal à 1, ça veut dire que BC sur A a un signe est fixé. On peut plus, enfin, il faut que BC sur A soit fixe. Et donc, et vous voyez ici apparaître les mêmes coefficients. Donc en fait, alpha prime va être lié à alpha par le carré de quelque chose. On va avoir quelque chose qui a toujours le même, qui est positif. Et donc on aura deux cas à considérer, alpha positif, alpha égale 1 et alpha égale à moins 1. Alors ces deux cas correspondent à ce qu'on appelle les algèbres de Newton. Donc vous avez des relations non nulles pour donc ici vous avez quelque chose de non nul, là vous avez quelque chose bêta est nul, donc c'est 0, hk lambda est différent de 0, vous avez quelque chose, là vous avez 0 et là vous avez 0. Donc c'est ce qu'on appelle les deux algèbres de Newton, plus et moins, qui sont en quelque sorte à l'algèbre de Galilée ce que sont les caroles cosmologiques à carole. Donc on pourrait les appeler aussi Galilée cosmologique en un certain sens. Donc je ne vais pas écrire explicitement les relations dans ce cas-là, hein, il suffit de substituer. Puis le cas A2, donc en termes de complexité, on va cette fois-ci supposer qu'un des deux coefficients est nul, par exemple alpha égale à 0, lambda différent de 0. Donc là, on va pouvoir supposer lambda égale à 1. Donc là, on a toutes les libertés qu'on veut pour le faire. Hein. Lambda se transforme comme ça. Lambda égale à 1, donc vous allez avoir tous des zéros partout ici, sauf là, hk est égal à p, qui est Galilée. Si vous allez regarder les relations de commutation que je vous ai écrites pour Galilée, c'est exactement ce cas-ci. Alors A3, ça va être alpha différent de 0, lambda égale à 0. Et dans ce cas-là, tout est nul sauf alpha est où ici. Donc vous voyez qu'en fait, on va obtenir des relations presque comme Galilée, mais où les rôles de P et de K sont échangés. On appelle ça paragalilée. Faute de meilleure terminologie. Donc c'est P va en moins K, enfin... et K va en P. Et puis le dernier cas qui est le plus facile, tout est nul. Donc ça c'est A4. C'est alpha égale 0, égale lambda, égale mu, égale bêta. Et rho était aussi égal à 0, donc il n'y a que des 0 ici. Donc on part de... La seule partie non triviale c'est SO3, les relations de commutation avec SO3. Tout le reste commute. Et donc ça s'appelle l'algèbre statique. Et donc, vous voyez qu'on peut effectivement faire complètement la classification de toutes les algèbres qui sont des algèbres cinématiques, c'est-à-dire qui sont des extensions de cette algèbre-ci, par les générateurs H, P, K, soumis à l'identité de Jacobi, et aux relations que j'ai imposées ici en plus. Alors, dans un article qui a suivi... l'article de Bakri et Lévy-Leblon, donc un article de Bakri et Neutz, la classification est faite sans supposer cette condition supplémentaire. Donc elle est faite tout à fait de manière générale. Et elle a été retrouvée plus récemment par José Figueroa Faril, qui sera le dernier orateur de ce cycle de cours, qui viendra parler en juin. Il a aussi retrouver cette classification en utilisant des méthodes mathématiques peut-être un peu plus sophistiquées, donc plus économiques. Vous voyez que c'est un peu fastidieux, ces classifications, comme toujours. Hein. Il faut énumérer et s'assurer qu'on n'a pas oublié un cas. Bien, enfin, on les a toutes. Alors, il y a une manière d'obtenir, et c'est assez instructif, toutes ces algèbres à partir de docitaires et antidocitaires, qui est un procédé qui s'applique ici, mais qui s'applique dans d'autres contextes aussi, qui est le procédé de contraction de Inonu-Wigner. Et donc je voudrais... Oui ?
On ne peut pas les écrire comme des produits semi-directs d'autres algèbres ?
Oui, dans certains cas. Donc ici, pas. Hein. La plus compliquée, elle est semi-simple, elle est même simple. Par contre, effectivement, dès au moment où on met des zéros, il y a beaucoup de ces algèbres qui peuvent se décrire comme des produits semi-directs, effectivement. comme pour Poincaré, les translations d'espace-temps, il y a des idéaux abéliens, enfin ce genre de choses, effectivement. Mais j'en parlerai peut-être quand je discuterai plus précisément certains de ces groupes. Donc je voudrais parler d'un procédé qui permet en fait de dériver toutes ces algèbres cinématiques à partir des algèbres de Sitter et anti-Sitter. Donc je vous ai montré comment on pouvait trouver Carole et Galilée par des redéfinitions de générateurs et en faisant tendre C vers 0, vers l'infini, à partir de Poincaré. Mais il se fait que c'est un procédé qui peut être formalisé et qui est assez général, et ça a été fait par Inono Wigner. Et je vais vous donner la recette, et puis je vais vous montrer qu'effectivement, ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est Sitter et anti-Sitter, toutes les autres en découlent par ce procédé de contraction. Donc, je vais devoir faire de la place, donc j'enlève ceci. Et donc ça c'est le point, c'est un procédé très simple. Dès qu'on a un sous-groupe, on peut à partir de ce sous-groupe, on peut utiliser ce sous-groupe pour faire une contraction du type que je vais indiquer. Donc ça c'est le point 4, contraction de I. Alors je ne suis pas tout à fait sûr de la prononciation, mais donc je vais dire Inono Wigner. Donc, il était un mathématicien turc et je crois qu'il a joué un rôle politique aussi.
Premier ministre,
voilà. Quel est ce procédé général ? Bien, supposons qu'on ait une algèbre de Lie. Et une sous-algèbre que j'appelle H. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai une sous-algèbre ? Donc, je vais écrire ça en termes de générateurs. Donc, les générateurs de G, je vais les appeler, d'abord, il y a ceux de H que j'appelle HI, et les autres, je vais les appeler K-alpha, donc tout le reste. Donc, puisque j'ai une sous-algèbre pour les H, le commutateur de 2H, ça me donne du H. HI avec K-alpha, c'est une combinaison linéaire de H et de K. Donc là, je vais juste écrire Fi alpha J HJ plus Fi alpha bêta H bêta. Et puis les K entre eux, ça donne aussi n'importe quoi. Donc il y a du F alpha bêta I HI plus F alpha bêta gamma. K gamma. Donc c'est une sous-algèbre ici parce qu'il n'y a pas de K. C'est la seule chose qu'on sait. Bon, évidemment, il y a l'identité de Jacobi qui va imposer, les identités Jacobi qui vont imposer des contraintes sur ces constantes de structure, mais on n'a pas besoin de les écrire explicitement pour ce que je vais discuter. Alors, quel est le procédé de Inono Wigner ? Donc on appelle contraction de l'algèbre de Lie par rapport à la sous-algèbre H, l'algèbre obtenue en redéfinissant K alpha comme K prime alpha égale epsilon K alpha, et en prenant ensuite la limite epsilon tend vers 0. Donc ce que j'appelais C avant, je l'appelle maintenant, ou 1 sur C avant, je l'appelle maintenant epsilon. Mais c'est le même procédé. Et je laisse tomber, après, une fois avoir fait ça, je laisse tomber le prime. Donc je maintiens ça constant, je fais tendre epsilon vers 0 et je regarde ce qui se passe. Alors, cette relation-ci ne va pas changer, puisqu'il n'y a pas de K. Donc je ne touche pas au H. Je ne redéfinis que les K. Mais ici, donc je vais mettre epsilon K. Vous voyez que ce qui va se passer, je vais avoir un epsilon ici, un epsilon là. Je vais avoir epsilon HJ, mais si je maintiens les HJ constants et que je fais tendre epsilon vers 0, ce terme-là va disparaître. Epsilon, là c'était un K que je devais mettre. Et epsilon K, ça va être le K prime. Donc vous voyez que les nouvelles relations vont être, quand je fais ça, la même pour les H, évidemment, on n'y touche pas. Ensuite, on aura HI K alpha se simplifie, parce que ce terme-là disparaît, il ne restera plus que le FI alpha bêta k bêta. Là, je multiplie epsilon epsilon, donc je vais avoir du epsilon carré et du epsilon carré. Je ne redéfinis pas hi, donc le epsilon carré, ben, ça tend vers 0, donc ce terme va disparaître. Là, j'ai epsilon carré k, un epsilon, je peux le manger dans le k pour avoir un k prime, mais il me restera un epsilon. Quand je fais epsilon tendant vers 0, ce terme-là disparaît aussi. Donc la dernière relation, elle se simplifie grandement en k alpha k bêta est égal à 0. Donc par contraction d'Inonou-Wigner, en prenant h, le sous-groupe h, auquel on ne touche pas pour faire la contraction, donc on obtient une nouvelle algèbre de Lie, qui est celle-ci. Et comme pour toute valeur de epsilon, l'identité de Jacobi est satisfaite, à la limite, elle est satisfaite aussi. C'est continu en epsilon. Donc, on obtient bien une algèbre de Lie ici, si au départ, on avait une algèbre de Lie. Alors, vous voyez que H est toujours une sous-algèbre, mais K devient aussi une sous-algèbre abélienne, qui est même plus qu'une sous-algèbre, c'est même un idéal. Donc, effectivement, cette algèbre aussi s'écrit toujours comme un produit semi-direct. Donc, on va voir que toutes les algèbres peuvent s'obtenir à partir de citaires et antidecitaires par contraction, toutes pourront s'écrire comme produits semi-directs, pour répondre à votre question. Alors, et donc clairement, l'algèbre obtenue n'est jamais semi-simple. Il y a un idéal abélien. Alors, ce que je voudrais montrer, et je ne vais peut-être pas le faire en détail dans les 10 minutes qui restent, parce qu'à nouveau, c'est un peu fastidieux, mais je vais montrer que si vous partez... on va regarder ce qui se passe quand on fait des contractions. Donc, on a huit classes d'algèbre. On va regarder ce qui se passe quand on fait ces contractions. Mais on veut que ces contractions ne touchent pas à ceci. Ça, c'est sacré. Donc, les rotations... On ne veut pas toucher aux rotations. Donc ça veut dire qu'il faut considérer dans les groupes de deux-citaires et de anti-deux-citaires des sous-groupes qui contiennent SO3, puisqu'on ne veut pas toucher à SO3. Donc SO3 doit être dans le H. Doit être dans la sous-algèbre. Et donc, on peut élargir SO3 en ajoutant d'autres générateurs pour former une sous-algèbre plus grande, mais en tout cas, au moins, il faut SO3 ici. Et le reste, c'est soit dans les K, soit dans les H. Alors, quels sont les sous-groupes de deux-citaires et d'antideux-citaires qui contiennent J? Ben, il y a le sous-groupe qui contient J lui-même. Vous pouvez voir que JH forme un sous-groupe aussi, ou une sous-algèbre, J'ai tendance à utiliser parfois le terme sous-groupe pour sous-algèbre et groupe pour algèbre. Bon, en fait, je travaille toujours au niveau algébrique pour le moment, donc ça doit toujours être algèbre. Donc J et H forment une sous-algèbre. J et donc ceci. J et P forment aussi une sous-algèbre. J et K forment aussi une sous-algèbre. J, K, H forment une sous-algèbre. Donc il y a plusieurs sous-algèbres qui contiennent les J. Donc il y a JP, JK, si j'ajoute du H, je risque de, il faut que ça reste, alors j'engendrerai tout, donc c'est les cas possibles, c'est les cas non triviaux qu'on va regarder. Parce que vous voyez, si j'essaye de mettre P et K ensemble, automatiquement j'engendre le H, donc je vais engendrer les autres. Ou si je mets H et P ensemble, je vais engendrer K du K aussi. Donc il n'y a pas de sous-algèbre qui contiendrait juste J, P et H. Alors ça doit aussi contenir K, donc ça contient tout. Donc les sous-algèbres strictes, c'est ceci. Et donc je peux considérer quatre classes de contraction et voir ce qui se passe. Alors, je vais en faire une, et puis je vous donne les résultats, parce que c'est pas particulièrement... c'est 24 qu'il est ou 34 24, voilà, j'ai encore 6 minutes. C'est pas particulièrement instructif. Enfin, une fois qu'on a compris comment marchait un cas, on a compris comment marchaient tous les cas. Donc je vais effacer ceci. Donc prenons par exemple les algèbres R1. Et je vais contracter par rapport, en prenant comme sous-groupe J et H. Donc, ce qui veut dire que je fais comme redéfinition, donc J et H, j'y touche pas, je fais P va en epsilon P et K va en epsilon K. Donc, K est associé à des vitesses, donc c'est en un sens une limite où, si epsilon tend vers zéro, je prends des vitesses de plus en plus petites. Donc en fait, si vous regardez le cône de lumière, quand K, on s'attend ici à ce que, si les vitesses sont petites, les vecteurs de vitesse correspondants sont de, sont de genre temps, puisque je me déplace beaucoup plus le long du temps, puisque le H, je n'y touche pas, que dans l'espace. Donc on s'attend ici à avoir une limite où les algèbres de la classe R deviennent des algèbres de la classe A. Où je vais avoir le cône de lumière complètement aplati, ouvert, en un plan, et donc où on aura un temps absolu. Bon, enfin, on n'est pas obligé de réfléchir. On va voir que c'est vrai, mais peut-être si l'intuition n'est pas là, c'est pas grave, parce qu'on le voit tout de suite par le calcul. Si je prends les algèbres de classe R1 et que je fais cette contraction, alors J, donc je ne touche pas à J et à H, mais les relations de commutation, donc qu'est-ce qui change? C'est les relations de commutation de H avec K, donc ça, on ne garde que le terme en K, et de K avec K, ça devient zéro. Donc vous voyez que donc ce qui est dans la partie que j'appelle K, c'est, j'ai dit P et K. Donc ça ne va pas changer. Mais P et P, ça devient zéro. H et K, ça ne va pas changer. K et K, ça devient zéro. P et K, ça devient zéro. Et donc, c'est quelque part les algèbres de Newton. Bon, je ne les ai pas écrites explicitement. Mais on peut démontrer que quand vous faites ça, donc il y a des zéros qui s'introduisent, et c'est exactement les zéros qui apparaissent dans, la classe, dans le cas de l'algèbre A1. Donc là, à nouveau, je vous laisse faire ça comme exercice. Hein. Donc c'est pas très compliqué, mais ça prend plus de temps à écrire qu'à comprendre. Donc je prétends que dans ce cas-là, A1, R1 devient ce contracte en A1. R2, mais ça c'est un peu pour ça que ça a été choisi, va se contracter en A2. Donc R2, c'était, je sais plus, c'était point carré. Mais ça va se contracter. Et A2, c'était Galilée, alors j'espère que c'est toujours là. Je pense qu'A2, c'était Galilée, je l'ai effacé. Et donc on sait bien qu'effectivement, quand on fait entre le coefficient ici qui est 1 sur C vers 0, c'est-à-dire C vers l'infini, point carré se contracte, c'est le calcul que je vous ai fait tout à l'heure, en Galilée. Oui?
Les groupes de symétrie qu'on cherche à contracter, on souhaite les contracter pour simplifier du coup les générateurs et être capable de résoudre des problèmes qui seraient complexes à résoudre.
Oui, en fin de compte, c'est ça. Mais pour le moment, ici, je me pose le problème mathématique de comprendre la classification. Oui. Alors, on a dit, pourquoi physiquement c'est intéressant? Effectivement, comme on a des groupes qui sont, qu'on espère en tout cas être plus maniable, parce qu'on est dans certaines limites, ça peut être un point de départ de développement perturbatif. Ça, je ne vais pas en parler ici. Ici, je me pose la question, quels sont tous les groupes de relativité possibles? On sait qu'il y a la relativité de Poincaré, Minkowski, enfin d'Einstein. On sait qu'il y a la relativité de Galilée. Quelles sont les autres relativités possibles? C'était la question de Bacri et Lévi-Leblon. Et donc, ils ont voulu trouver tous les groupes possibles qui pouvaient caractériser la relativité, et on en trouve 8. Alors c'est une classification un peu laborieuse, on essaie d'un peu mieux comprendre la relation entre ces différents groupes, et c'est intéressant de savoir que certains s'obtiennent à partir d'autres par des passages à la limite, qui ont été formalisés en termes de contraction d'algèbre de Lie. D'accord ? Alors, dans les minutes qui restent, donc je vais vous laisser faire ça comme exercice, je vais juste donner les résultats. R3 se contracte en A3, et R4 se contracte en A4. Mais ça, c'est un type de contraction. Je peux regarder maintenant des contractions par rapport à J et à P. Donc je ne touche pas à J, je ne touche pas à P, mais je redéfinis H et je redéfinis K. Et ça, c'est exactement ce que je vous avais fait pour passer de Poincaré à Carole. Et donc, parmi les contractions, dans ce cas-là, ben, on connaît déjà en tout cas une réponse, c'est que R2 se contracte en R4 et R1, si vous faites le calcul, se contractera en R3. Et donc, vous voyez que... alors, pareil, on peut montrer, ça je vous laisse, A1 en A3 et A2 en A4. Galilée, ben, tout va vers A0, on devient statique. Je peux maintenant aussi faire la contraction par rapport à J et K. Le dernier sous-groupe dans la liste. Dans ce cas-là, ben, R1 devient R2. Je vais faire un commentaire. R3 devient R4. A1 devient A2. Et A3 devient A4. Et donc, en fait, ici, vous voyez qu'on... ça veut dire qu'on va redéfinir P et on va redéfinir H. C'est-à-dire que ça, ça correspond aux translations, donc en mettre du temps plein epsilon. Donc on regarde des petits intervalles ou des petites régions dans l'espace-temps. Donc en un sens, si l'espace-temps a de la courbure, ce qui se passe pour deux citaires et anti-deux citaires, on regarde l'espace tangent. Et donc on élimine la courbure. Bon, enfin, y a moyen de comprendre. Malheureusement, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais donc toutes ces contractions, on peut développer une intuition. Pourquoi c'est ça qui va vers ça, ça qui va vers ça. Mais enfin, vous voyez qu'à partir de R1, je peux tout engendrer. Je peux engendrer A1, alors pas directement. Je peux engendrer R3 et donc A3. Je peux engendrer R2 et donc A2. Et le A4, ben, je peux l'engendrer également. Hein. R1 me donne A1, A1 me donne A3 et A3 me donne A4. Donc vous voyez que toutes les algèbres de Lie que j'ai écrites peuvent s'obtenir par contraction. Parfois, il en faut plus qu'une. De l'algèbre de deux-citaires ou anti-deux-citaires. Donc en quelque sorte, ce sont les algèbres mères de toutes les algèbres cinématiques à partir desquelles on peut obtenir toutes les autres. Voilà, donc pour cette première leçon, je vais arrêter ici. Donc ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'il y avait un problème algébrique intéressant derrière la recherche de toutes les algèbres de relativité possibles, algèbres cinématiques possibles, qui a été résolu, et je vous ai montré les techniques qui ont été utilisées pour résoudre ces algèbres. Et on voit également qu'il y a des liens très forts entre ces algèbres, puisqu'on peut obtenir certaines de ces algèbres à partir des autres en prenant des limites appropriées. Alors, je voulais couvrir encore aujourd'hui une chose, mais que je le ferai la fois prochaine, qui est particulièrement importante pour Galilée, c'est la question d'existence d'extension centrale. Donc, étant donné une algèbre, on peut, dans certains cas, de manière non triviale, ajouter des générateurs qui commutent avec tous les autres, donc des générateurs qui sont centraux, mais qui apparaissent dans les relations de commutation. Et on peut se poser la question, parce que c'est physiquement important, parmi ces algèbres-ci, lesquelles possèdent une extension centrale. Je vais vous donner le résultat et j'en reparlerai la semaine prochaine. Les seuls qui possèdent une extension centrale, c'est les algèbres du type A, c'est-à-dire pour lesquels rho est égal à 0, et l'extension centrale, en fait, revient à substituer h par l'identité fois un certain facteur, et donc à remplacer le générateur par un générateur qui commute avec tout. Mais j'en parlerai la semaine prochaine. Voilà, donc je m'arrête ici, j'ai un peu débordé, je suis désolé. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.